Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'une des dispositions de la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et c'est la plus controversée. Le gouvernement français veut ouvrir le capital, voire privatiser certaines entreprises qu'il possède. Il y a Engie, distributeur historique du gaz en France, mais aussi la Française des Jeux qui organise le loto et autres jeux de hasard. Et enfin, Aéroports de Paris, entreprise qui gère les aéroports de Roissy et Orly en région parisienne, mais aussi une vingtaine d'autres dans le monde. Cette dernière décision en particulier fait polémique. Faut-il privatiser Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Benjamin Carroyatz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13 et membre du comité d'animation des économistes atterrés et auteur de « Vers une république des biens communs ?» C'est aux éditions Les Liens qui libèrent et c'est sorti l'an dernier. Et Pascal Salin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur honoraire de l'Université Paris 9 Dauphine, président de l'ALEPS, c'est l'Association pour la liberté économique et le progrès social, ancien président de la Société du Mont Pèlerin et auteur de Libéralisme aux éditions Odile Jacob, paru en l'an 2000. Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris, ce sont des entreprises qui se portent comment, Pascal Salin ?
Oh, qui se portent bien, plutôt, bien sûr.
Benjamin Carroyatz,
Oui, tout à fait. Ce sont des entreprises, d'une part, qui dégagent des profits, donc elles sont même au-delà de l'équilibre. Et pour des raisons différentes, c'est des entreprises qui ont des perspectives de croissance et de développement tout à fait importantes. C'est des entreprises qui vont bien, il n'y a pas de souci, si je peux dire.
Alors, comme elles vont bien, est-ce que ce n'est pas le moment de les vendre? Est-ce que l'État pourrait en tirer un bon prix, Pascal Salin?
Probablement, on ne sait pas encore, bien entendu. Mais on peut imaginer que, de toute façon, il y a des moyens d'améliorer leur fonctionnement. Et c'est bien pour cela qu'il y aura des amateurs qui seront prêts à dépenser pour acheter les entreprises en question.
Voilà, on va en reparler effectivement des perspectives et de la façon de les gérer. Est-ce que Benjamin Carroyatz, vous appelleriez Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris des bijoux de famille ?
Écoutez, je suis pas fanatique de l'expression de bijoux de famille, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des entreprises sur lesquelles l'État a une influence importante. D'abord en termes d'actionnariat, hein, il en contrôle une grande partie.
On va préciser que ce ne sont pas des services publics, hein, ce sont bien des entreprises.
Ce sont des utilités publiques.
C'est des services.
Oui, c'est ça. C'est des sociétés, mais c'est des sociétés qui fournissent des utilités publiques, c'est-à-dire en gros des réseaux qui remplissent des fonctions essentielles, hein, qu'il s'agisse de l'électricité ou du transport. Pour le cas de la Française des Jeux, c'est un tout petit peu différent. Ça ferait partie, enfin, en économie, on dit souvent que on a des choses qui sont des biens sous tutelle, c'est-à-dire des biens sur lesquels il est utile que l'État ait un regard, parce que voilà, il y a des problèmes dans le cas d'espèce, il peut y avoir des problèmes d'addiction, d'endettement non contrôlé.
Pour le jeu, effectivement, voilà. Absolument. Pascal Salin, est-ce que vous, l'expression bijoux de famille à propos de ces entreprises vous choque ? Est-ce que ce sont des entreprises comme les autres?
Oui,
elles ne sont pas comme les autres.
L'expression me choque parce que ça n'a rien à voir avec des bijoux de famille. Les bijoux de famille, ils ont une nature qui fait qu'ils sont liés à une histoire familiale. On ne peut pas dire que c'est le cas pour ces entreprises. Il se trouve que l'État en est actionnaire. Ces trois entreprises, ce ne sont pas des entreprises qui sont possédées en totalité par l'État. L'État ne possède même que 24% d'Engie, ce qui est limité, et un peu plus de 50% d'Aéroports de Paris. Ça paraît plus grande pour le FDJ, qui est de 72% pour la Française des Jeux. On pourrait dire une privatisation partielle, puisque ce sont des entreprises qui sont déjà en grande partie privées.
Une ouverture du capital, en fait.
C'est une ouverture du capital, c'est peut-être ce qu'il faudrait dire. Et je serais tenté de dire, pour ma part, que c'est finalement quelque chose de très limité par rapport à ce que possède l'État. Je crois qu'il possède à peu près 1000, il participe à peu près 1600 entreprises, ce qui est énorme. Et donc, je ne vois pas ce que ça peut avoir de particulièrement frappant et pour certaines personnes inquiétant qu'il se sépare de ce qu'il possède dans 3 entreprises.
Alors, on va y revenir. Benjamin Coriat, vous parliez des perspectives d'avenir de ces entreprises et on pense évidemment au prix du gaz qui est en hausse, au trafic aérien qui est en hausse sur les prochaines années. Est-ce que ça veut dire que s'il vend une partie de ses actifs dans ses entreprises, l'État va se priver de futurs revenus?
Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes de prix et des revenus, et puis après il y a des problèmes de exercice de fonctions régaliennes, pour parler clair. Alors, concentrons-nous d'abord sur les problèmes de prix, de revenus, etc. Bien. Pour le moment, prenons le cas d'Aéroports de Paris parce que c'est quand même le plus emblématique. Donc, pour le moment, grâce au fait qu'il est actionnaire, donc l'État perçoit des dividendes. Ça dépend évidemment des années, de l'ordre de 300 millions d'euros, 300-400 millions d'euros, ce qui est quand même pas négligeable et qui est en plus un revenu permanent, ce qui est quand même très important pour l'État.
Alors, une rente, quoi.
C'est une espèce de rente. C'est une espèce de... Et heureusement qu'il y a une source de revenus de l'État qui provient de sa participation aux activités commerciales proprement dites, parce que sinon il faudrait tout faire par l'impôt et donc ça serait catastrophique compte tenu des problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, si vous voulez, les deux problèmes qu'il y a, c'est que il n'est pas du tout sûr qu'en cédant Aéroports de Paris, aujourd'hui, l'État ferait une bonne affaire. Parce que les perspectives de croissance sont très importantes. Est-ce que aujourd'hui la bourse va valoriser Aéroports de Paris à sa valeur future de demain? Il y a toute la question des terrains et du foncier autour d'Aéroports de Paris qui suscite de très grandes inquiétudes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement est obligé de dire « Mais rassurez-vous, ils n'auront pas le droit de toucher au foncier. Mais rassurez-vous, on va contrôler les prix. » Bon, bref, ils sont obligés de mettre toute une série de conditions.
Pascal Salin, ce sont des entreprises qui donc dont les participations rapportent à l'État. On se priverait de beaucoup d'argent dans l'avenir, selon vous ou
Alors, je crois tout d'abord que si véritablement on peut prévoir qu'il y aurait une rentabilité en croissance importante dans le futur, eh bien, les prix de vente en tiendraient compte. Et de ce point de vue-là, il revient au même de rester propriétaire ou de vendre. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a 2 justifications possibles aux privatisations. Pour ma part, je suis très favorable par principe aux privatisations. Pour la raison suivante, c'est que le droit de propriété, c'est le fondement de la responsabilité. Quand quelqu'un est propriétaire, il est incité à gérer au mieux et par conséquent à avoir une production qui est faite de manière efficace, à développer ses marchés, etc. Et si on peut critiquer justement les entreprises publiques, c'est parce que le sens de la responsabilité y est considérablement dilué. Donc ça me paraît être une justification fondamentale de la privatisation, et c'est pourquoi, personnellement, j'estime que les décisions qui sont prises actuellement, elles sont vraiment mineures par rapport à ce que l'on pourrait faire. Mais il y a peut-être une deuxième raison pour laquelle l'État privatise, ou bien tout au moins vend une partie de ses actions. Et je crois que c'est en fait la seule raison, c'est que nous savons bien qu'il y a en France un déficit budgétaire et une dette publique importante. Et donc, en vendant ses participations à certaines entreprises, l'État peut obtenir dans le court terme des ressources. Et malheureusement, la perspective de l'État, elle est toujours à court terme, parce que pour un gouvernement, l'horizon, c'est l'horizon de la prochaine élection. C'est un horizon court. Alors que les êtres humains, ils ont un horizon long, l'horizon de leur vie ou même celle de leur successeur. Donc, la justification véritable des décisions qui sont prises actuellement me semble être celle-ci. Apporter des ressources à l'État parce que on a des difficultés, malheureusement, et contrairement à ce qu'on devrait faire, à réduire le déficit et à réduire l'endettement.
Benjamin Coriat, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'État masque sous des dehors stratégiques un besoin d'argent frais?
Incontestablement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que une des justifications non dites, mais tout à fait sérieuses, c'est de ne pas dépasser l'endettement à 1000 milliards. Bien. Ce qui est vraiment...
On est à 99,1% du PIB d'endettement en France.
Hein. C'est symbolique si on atteint 100%.
C'est symbolique, mais c'est ridicule. C'est ridicule, parce qu'en aucun cas, une décision stratégique comme la privatisation d'une utilité publique ne peut être justifié pour ces motifs, d'autant que c'est one shot, si je peux dire. Ça veut dire que une fois qu'ils ont vendu, ensuite on fait quoi? Alors que là, on a des ressources pérennes. Bon, donc c'est une justification qui n'en est pas une. Alors sur le fond, parce que c'est ça le point fondamental, évidemment, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. La propriété privée ne garantit absolument pas la responsabilité. Dans un certain nombre de cas, elle est le moteur principal de l'irresponsabilité la plus générale. Je vais donner un exemple.
On va laisser donner l'exemple. Je vais quand même donner un exemple.
Mmh. Aujourd'hui, hein, 70% du financement bancaire dédié à l'énergie va au combustible fossile. C'est-à-dire que la poursuite de l'intérêt privé bien compris conduit la planète à son explosion. Et que ce chiffre, il est absolument hors de tout sens commun. Bon. Et ça, c'est la gestion bien comprise des intérêts privés, des compagnies et des banques. Juste un mot quand même, le cas d'Aéroport de Paris, qui est géré par la puissance publique, montre bien, au contraire, que dans un certain nombre de cas, ça a été géré de manière extrêmement avisée. C'est une entreprise florissante, pleine d'avenir, et avec des terrains qui lui permettent de se développer comme un des principaux hubs mondiaux.
Alors, Pascal Salin, on a compris que vous n'étiez pas en désaccord. Et en fait, la question que soulève Benjamin Coriat, c'est le privé gère-t-il forcément mieux que le public?
Bien sûr que non.
Ah, bien sûr que si.
Bien sûr, voilà, que je viens de donner un exemple.
Pascal question, Salin. C'est une question de pure logique. Et quelqu'un qui est propriétaire, il est incité à bien faire. Et puis alors, il faut peut-être ajouter justement que lorsque la propriété est publique, elle est diluée, on ne sait pas véritablement qui est responsable. Est-ce que ce sont les politiciens, est-ce que ce sont les hauts fonctionnaires, est-ce que ce sont les dirigeants, etc. C'est dilué. Et ceux qui prennent des décisions ne supportent pas eux-mêmes les conséquences de leurs décisions, les conséquences positives ou négatives. Et c'est une raison donc tout à fait logique pour dire que l'efficacité productive est moins grande. Et on en a des millions d'exemples à travers le monde. Et bien souvent, les entreprises publiques sont déficitaires. Alors on peut bien sûr citer des exemples qui sont contraires, mais il suffit pas de citer un ou deux exemples.
Non, on peut citer des dizaines d'exemples. Enfin,
Benjamin Coriat,
je veux bien, mais l'industrie automobile américaine, qui a été la reine des industries automobiles, s'est conduite de manière totalement irresponsable pendant des décennies en fabriquant des voitures hyper puissantes, hyper polluantes, au point que en 2008, si l'État n'avait pas été là, hein, pour sauver l'industrie privée, l'industrie automobile américaine n'existerait plus. C'est pas un tout petit exemple, ça. C'est un gros exemple.
Alors, je vais recentrer un petit peu le débat, si vous le voulez bien. Le dossier qui fâche le plus, c'est celui d'Aéroport de Paris. Oui. Et je vais employer un grand mot. En privatisant Aéroport de Paris, est-ce qu'on touche, Pascal Salin, à la souveraineté de la France?
Eh bien, ça, je ne le crois pas, parce que je ne vois pas en quoi l'aéroport peut être lié à ce qu'on appelle une fonction régalienne. Et les fonctions régaliennes, c'est par exemple la défense nationale, la sécurité, mais bon, que les aéroports soient importants, c'est pour le transport bien sûr, mais ce n'est pas, on ne touche pas du tout à la souveraineté. Il faut d'ailleurs peut-être préciser que Aéroport de Paris tire 74% son revenu de ses activités commerciales. Les autres activités sont évidemment des activités tout à fait importantes pour tout le monde, mais elles ne constituent pas l'ensemble des activités d'aéroport de Paris.
Alors on va en parler. Un aéroport, Benjamin Coriat, c'est aussi une frontière pour les deux aéroports parisiens. Bien c'est sûr. Même plus de 80% des visiteurs internationaux du pays chaque année. L'État a intérêt à garder la haute main sur cette infrastructure.
Mais bien entendu, lorsqu'on a vendu Toulouse, qui se trouve à deux pas d'Airbus à des Chinois, toute une partie de la communauté, y compris des ingénieurs d'Airbus, est montée au plafond en disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Bien. Donc, il y a un vrai problème là. Je voudrais juste dire, quand même, à M. Salah, mais aussi à l'ensemble de nos auditeurs, qu'il y a aux États-Unis 15 000 aéroports. 15 000 aéroports publics. Les États-Unis, qui sont très conscients de ce que c'est que la souveraineté, la défense des territoires, etc., ils ont absolument des situations publiques pour la gestion de leurs aéroports. Alors, c'est vrai que dans notre cas, on va pas abandonner le contrôle des citoyens ou des arrivants.
Les contrôles de sécurité sont déjà effectués par des entreprises privées. Ça n'a pas changé grand-chose, Benjamin Coriat.
Ça n'a pas changé grand-chose. Il y a plein de problèmes.
Ça ne va pas changer grand-chose.
Ça ne va pas changer grand-chose. À condition, parce que il y a tout un problème de logistique, stockage, etc. Sur les aéroports. Bon, et donc de ce point de vue, c'est vrai que le fait que ça soit entièrement sous une main privée, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que le privé n'achètera que s'il a la main, risque de créer des problèmes. Je ne dis pas que ça va en créer automatiquement, ça peut en créer.
Pascal Salin, je vais donner un contre-exemple à ce que vient de dire Benjamin Coriat. Le contre-exemple, c'est l'aéroport de Heathrow à Londres, qui est privé. Et qui fonctionne plutôt pas mal quand même.
Exactement. Il y a autour de Londres 6 aéroports qui sont des aéroports privés. D'ailleurs, on pourrait très bien dire que, au lieu de privatiser l'aéroport de Paris, on aurait peut-être dû séparer, par exemple, Orly et Charles de Gaulle, les privatiser séparément, pour qu'il y ait véritablement concurrence. Parce que je crois qu'il est important qu'on ne se contente pas de privatiser, mais qu'on permette aussi à la concurrence de jouer. Et il est évident que la concurrence est moins présente pour une activité comme un aéroport que pour des activités purement commerciales. Donc on pourrait faire ça et peut-être permettre la création de nouveaux aéroports privés.
Je rebondis sur ce que dit Pascal Salin, Benjamin Coriat. Un aéroport, c'est aussi de plus en plus un centre commercial. Est-ce que c'est la vocation de l'État ?
Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que les deux caisses sont séparées encore aujourd'hui. Si elles étaient d'ailleurs unies, on aurait d'autres problèmes. Ce dont il est question, c'est pas de la fusion des caisses. La dimension privée restera privée. La question qui est là derrière, c'est la cession d'un monopole à du privé. C'est quand même de ça qu'il faut discuter. Et alors, on va parler des autoroutes en France, qui a été une catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas seulement l'opposition de gauche, pour parler clair, qui est contre cette privatisation, vous le savez très bien. Absolument. On a fait une énorme bêtise en privatisation.
C'est des oppositions politiques en général.
Bien sûr, d'une part. Et d'autre part, pour Heathrow, qui fonctionne relativement bien, comme on a privatisé les transports en Angleterre. Vous savez quel est le budget de transport des Londoniens et des Anglais aujourd'hui?
Il est plus élevé qu'à Paris-Centre.
27% de leur budget, contre 7 à 8% à Paris. Donc, c'est ça qui est aussi derrière. C'est la pure rationalité du point de vue des consommateurs. On ne privatise pas des monopoles.
Merci beaucoup Benjamin Coriat, je suis désolé Pascal Salin, merci quand même d'avoir participé à cette émission, mais vous avez plus le temps de répondre. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage et Arnaud Lasseva à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Vous pouvez participer au débat du jour sur les réseaux sociaux, on est là, on lit tout, on vous écoute. Et prochain débat, ce sera demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.